Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans 1 Timothée chapitre 3. Et aujourd'hui, je voudrais lire du verset 1 au verset 7 et parler concernant le rôle d'un pasteur ou bien d'un ancien. Il y a ces termes qui sont utilisés dans la Bible, pasteur, ancien, évêque. Alors, il nous faut comprendre le sens biblique, parce que les hommes prennent ces titres aujourd'hui, mais sans véritable connaissance du sens de cela. Alors, je vais lire du verset 1 au verset 7, 1 Timothée 3. C'est écrit, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux de dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors, ayant vu dans le dernier chapitre le rôle des femmes, et c'est un rôle de soumission, puisque c'est typique de l'Église de Christ, qui est soumise à Christ, qui est le seul chef. Et cela date depuis Adam et Ève, que c'est Adam que Dieu a établi comme le représentant de sa race, de sa famille, et c'était prophétique, typique de Christ, qui est le dernier Adam. Il est venu en tant que Dieu dans la chair pour représenter une race, ce peuple que le Père lui a donné, et Ève représente l'Église. Elle représente cet rassemblement de pécheurs de tout part dans le monde que Dieu a choisi pour le salut et qu'il a donné à son Fils afin que son Fils les rachète. Alors, c'est pourquoi la femme doit garder le silence dans l'assemblée. Elle ne doit pas prendre le devant. Elle ne doit pas enseigner dans l'assemblée. Ce rôle revient aux hommes, mais aux hommes spirituels. Alors, puisque la Bible détaille tout et ne laisse rien à l'imagination des hommes, alors nous voyons ici ces instructions qui sont maintenant données aux hommes, qui sont données à ceux que le Seigneur lui-même suscite pour diriger son Église. Nous savons ici sur la terre que l'Église ne se rassemble pas en même temps en tout lieu. Nous sommes séparés dans le monde, dispersés dans différents lieux. Et ici, nous avons des instructions qui sont claires et précise concernant la manière que ces assemblées doivent être dirigées. Nous ne prenons pas nos ordres d'une dénomination quelconque ou d'une organisation quelconque, mais nous prenons nos instructions de la parole de Dieu lui-même. Alors, nous avons ici ces qualifications pour ceux qui sont dirigeants dans l'Assemblée, et c'est réellement la raison pour ce temps d'étude. Nous avons surtout des hommes, pas un grand nombre, mais si vous êtes dans ce cours et en train de suivre, c'est parce que vous êtes responsable quelque part. Et maintenant, nous sommes en train d'apprendre ensemble la manière que nous devons diriger ces assemblées dans lesquelles le Seigneur nous a placés. Alors, dans 1 Timothée chapitre 3 et le verset 15, Paul donne ce résumé du but de ses écrits. Il dit, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Une véritable église est le corps de Christ sur terre, la tête est dans les cieux. Christ, quand il est venu, il a accompli la mission. Il a accompli l'œuvre que le Père lui a envoyé faire. Et c'était le salut des pécheurs que le Père lui a donné depuis l'éternité. Alors, maintenant, ayant accompli cette mission, il est mort, il est ressuscité, et il a ascendu dans les lieux célestes, mais il a laissé sur la terre des hommes. Dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 9, il dit, « Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Il s'est humilié en devenant un homme pour accomplir sa mission de médiateur entre Dieu et son peuple. Et puis, Éphésiens 4, 10, encore, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il y en a qui enseignent que Christ est venu, il est mort, il est monté au ciel et un jour, il règnera. C'est comme ça qu'il enseigne que le règne de Christ n'est pas encore une réalité. Mais ici, nous voyons que ça s'est déjà accompli. S'il est monté au ciel, c'est qu'il règne maintenant. Et la Bible est claire, il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Nous pouvons nous reposer dans cette vérité que Christ règne et que rien ne touche son peuple, rien ne touche son Église, que Christ lui-même n'a pas ordonné. S'il remplit toutes choses, c'est qu'il est partout. Et il exerce son autorité partout. Je sais qu'il y en a qui imaginent que le monde est divisé en deux parties. Une partie qui appartient au diable et l'autre partie qui appartient à Christ. Et la manière qu'il prêche, c'est qu'il nous faut alors aller faire le combat pour Christ, pour gagner le terrain. Mais tel n'est pas l'enseignement de la Bible. La Bible enseigne simplement qu'il règne et qu'il est vainqueur et que rien ne se passe dans ce monde ni au ciel que Christ lui-même n'a pas ordonné. Et la manière que Dieu a ordonné que son Église croisse dans ce monde, c'est écrit dans le verset 11 de Éphésiens 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Notez, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, quand il s'agit d'apôtres et de prophètes, mentionnés en premier lieu dans le verset 11, il faut dire que nous vivons aujourd'hui dans une époque où les apôtres et les prophètes n'existent plus. Pour être un apôtre, il a fallu être quelqu'un qui a vécu au temps de Christ et qui a suivi les enseignements de Christ tant qu'il était sur cette terre et qui était témoin de sa résurrection. Alors, nous sommes déjà 2000 ans plus loin du premier siècle et aucun homme n'existe aujourd'hui qui remplit ses qualifications. Donc, il n'y a plus d'apôtres. Et aussi, nous pouvons dire dans le sens de prophètes à qui Dieu donnait des révélations. Il faut dire que l'apôtre Paul était le dernier. C'est à lui que Dieu a donné d'écrire la plupart des livres, des épîtres du Nouveau Testament. Et maintenant que la Bible est complète, il n'y a plus de prophétie dans ce sens, de révélation, de nouvelles révélations. Tout ce que nous devons comprendre au sujet de Dieu, du salut et de ce monde et ce qui se passe, c'est déjà écrit. C'est pourquoi le dernier livre de la Bible, et je crois que c'est clair, mais il y en a aujourd'hui qui prétendent toujours recevoir des révélations de Dieu. Mais c'est clair dans Apocalypse chapitre 22, c'est écrit verset 18, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » Le mot « livre » là, c'est de ce mot que nous avons le mot « Bible ». C'est directement du grec. Alors, il ne s'agit pas simplement du livre d'Apocalypse, mais de toute la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Alors, il y a des gens qui parcourent le monde aujourd'hui prétendant avoir une nouvelle révélation de la part de Dieu. Mais de telles personnes, selon ce qui est écrit là, sont condamnées. Notre seule base, notre seule autorité, c'est cette parole que nous avons entre nos mains. Alors, il n'y a plus de prophète dans ce sens. Mais Dieu s'est servi des apôtres et des prophètes pour le fondement de l'Église. Alors, si quelqu'un demande, mais qui est-ce qu'on a aujourd'hui? Le reste du verset 11 le décrit. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, un évangéliste, c'est quelqu'un qui prêche l'Évangile. Je dois dire que ça, c'est le rôle de tout pasteur. Quand c'est écrit ici comme évangéliste et les autres comme pasteur et docteur, ce n'est pas en train de distinguer leur rôle. Si quelqu'un est un pasteur, il est aussi évangéliste. Son rôle, c'est de prêcher l'Évangile. Et à travers l'Évangile prêché, Dieu appelle, attire ses brebis. Les brebis, selon Jean 10, sont ceux que le Père a donnés à Christ. Ce n'est pas tout le monde qui est brebis. Alors, et en même temps, pasteur, il faut reconnaître que ces termes sont des fonctions et pas des titres. Le monde aime mettre pasteur devant son nom, mais ici c'est écrit pasteur, notez bien, en minuscule. En fait, évangéliste en minuscule, c'est des fonctions. Et quand c'est écrit docteur, voilà, là encore, docteur, tant ou tel. Non, c'est au minuscule. Le mot docteur signifie un enseignant. Alors, dans ces trois termes, nous avons les fonctions de ceux que Dieu a ordonnés pour le perfectionnement des saints, comme c'est écrit dans le verset 12. Le mot perfectionnement, ça parle de mûrir dans l'évangile. Le rôle d'un pasteur, un évangéliste, un enseignant, un dirigeant que Dieu a suscité, c'est de nourrir, de paître les brebis de Christ pour leur perfectionnement, afin qu'ils mûrissent. Notez bien les mots qui sont utilisés pour le perfectionnement des saints. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est saint qui n'est pas aussi saint que Dieu lui-même. Alors, on peut se demander comment est-ce que nous pouvons porter ce nom-là, d'être saint. Là encore, dans le contexte, nous voyons que c'est uniquement par l'œuvre de Christ qui est saint. Et c'est sa sainteté, puisqu'il accomplit la justice de Dieu parfaitement à l'égard de son peuple. Donc, Dieu a imputé, il a mis au compte de chacun pour qui Christ est mort, la sainteté que Christ a accomplie. Vous savez que pour accomplir la justice de Dieu, il fallait que Christ d'abord obéisse à la loi parfaitement, non seulement à la lettre, mais même dans l'esprit de la loi. C'est ce que nous pouvons jamais faire en tant que pécheurs. On ne peut même pas commencer à obéir, mais Christ a obéi parfaitement. Et non seulement à la lettre de la loi, mais aussi dans la mort, parce que la loi exigeait la mort des pécheurs, et Christ alors est mort afin d'accomplir tout ce que la loi et la justice de Dieu exigeaient, afin que Dieu soit juste en justifiant ceux qui croient en lui. Alors, qui croirait en lui si ce n'est pas ceux à qui Dieu donne son esprit? La croyance n'est pas dans le cœur des hommes et des femmes pécheurs naturellement. C'est un don de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. La repentance, un don de Dieu. Alors, Dieu donne cette foi. Il donne cette repentance à chacun pour qui Christ a payé la dette. Et à nous maintenant, si le Seigneur s'est révélé en nous, en tant qu'homme, et qui nous a suscité et placé dans un milieu où il y a d'autres brebis qui se rassemblent. Donc, notre rôle n'est pas de se mettre devant pour être vu par des hommes et apprécié par des hommes. Non, c'est un rôle de serviteur. C'est le titre que Paul lui-même utilise. Un serviteur de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ pour le perfectionnement des saints. Enfin, le mot saint là, pour ceux que Dieu a déjà justifiés et déclarés saints par l'œuvre de Christ. Alors, notez bien, c'est un ministère qui a en vue le peuple de Dieu. On ne rentre pas dans le ministère pour servir nos propres intérêts. Ça, ce n'est pas le but. C'est de servir Dieu pour le perfectionnement, la maturité, pour nourrir les saints en vue de l'œuvre de ministère et de quoi? L'édification du corps de Christ. Alors, c'est un rôle très important qu'on ne doit pas prendre à la légère. Alors, si nous revenons dans notre texte, dans 1 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 7, voyons, alors, qui qualifie? Qui est qualifié? Qui sont ceux qui servent Dieu dans ce ministère-là? Dans le verset 1, ça commence avec cette phrase, « Cette parole est certaine. » Alors, nous ne devons pas imaginer que Dieu laisse chaque responsable diriger de sa manière. Non, chacun de nous, nous sommes responsables à Dieu, et ayant déjà interdit aux femmes de faire ce travail d'enseignement, alors il passe maintenant aux hommes, où il a déjà dit dans le verset 8 du chapitre 2, 1 Timothée 2, 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Le mot « prie » là veut dire « adorer », que les hommes prennent le devant dans ce qui concerne l'adoration de Dieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et nous avons vu la dernière fois, il ne s'agit pas là des mains physiques. On peut bien se laver les mains et les élever devant Dieu, mais cela ne rend pas un homme pur. Le sens, c'est qu'il s'agit des hommes qui sont déjà purifiés par le sang de Christ. Parce que c'est le sang de Christ seul qui purifie. Et sans colère ni mauvaise pensée. Donc, il s'agit là de l'œuvre de Christ pour nous, mais aussi en nous. Parce que nous ne devons pas diriger l'assemblée avec des préjugés. Nous savons que, surtout dans plusieurs lieux dans le monde, il y a diverses races, ethnies, etc., qui se rassemblent. Alors, c'est pas là qu'il y a des jalousies. Parfois, il y a des difficultés, des conflits entre cultures. Mais dans l'assemblée, cela ne doit jamais se faire. Et surtout par un responsable, un dirigeant. Il ne doit pas préférer certains au-dessus des autres. Non, sans colère ni mauvaise pensée. Je dois dire qu'il y a beaucoup de raisons parfois, peut-être qu'on peut se fâcher, surtout en prenant la dirigeance d'une assemblée. Les hommes sont des hommes, sont des pécheurs. Même le prédicateur est un pécheur. Mais on doit tout soumettre à Dieu, demander à Dieu de nous donner cet esprit de grâce, de tout simplement diriger les hommes et les femmes à Christ, de leur parler de Christ, comme Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau qui a ôté le péché du monde. » Alors, c'est une parole certaine à laquelle nous devons faire attention. Mais c'est écrit tout d'abord, parce qu'on peut se demander, mais comment on peut savoir si réellement je dois être un responsable ou bien un dirigeant? Notez dans le verset 1, ça commence par le désir de servir Christ, de servir Dieu. C'est écrit « Si quelqu'un aspire, voilà le mot-clé, à la charge d'évêque. » Le mot « évêque » là signifie un surintendant. Imaginez, c'est comme le mot « pasteur ». C'est un berger, un sous-berger. Nous avons un seul berger qui est Christ, mais ceux qui s'occupent des brebis de Christ sont considérés comme des surintendants. Là encore, il ne faut pas prendre ça comme un titre, mais une fonction. Aujourd'hui, on entend parler d'évêque tant ou d'évêque tel. Non, ce n'est pas un titre, c'est un surintendant. Alors, c'est une, comme c'est écrit ici, une charge d'être fidèle à celui qui nous a placés dans ce rôle. Et ça, c'est Dieu. Et c'est pour la gloire de Christ, c'est pas pour notre propre gloire. Alors, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, pasteur, d'être un sous-berger de Christ, il désire une œuvre excellente. Je ne peux pas imaginer une meilleure œuvre à laquelle je peux me donner que de servir Christ pour sa gloire et pour le bien de ce peuple qu'il a racheté par son sang. Je ne sais pas qui ils sont, mais en prêchant dans l'assemblée, cet évangile qui a la gloire de Christ seul, c'est Dieu lui-même qui attire ses brebis. Il attire ceux qu'il veut faire écouter, entendre cet évangile. C'est lui qui donne l'oreille, c'est lui qui donne le désir et c'est lui qui les attire. Nous n'avons pas de programme d'aller dans les banlieues, différents lieux, pour essayer de convaincre des gens de croire en Christ. Ça, c'est les méthodes modernes, mais ce n'est pas à nous de convaincre les hommes. Nous ne sommes que des semeurs qui ont cette semence que Dieu lui-même sème à travers nos mains et nos prédications, mais où cette semence trouve une place mûre pour croître, c'est Dieu qui donne le fruit, ce n'est pas à nous. Mais c'est une œuvre excellente, parce que c'est une œuvre qui concerne la gloire de Dieu et une œuvre qui a des conséquences pour l'éternité. C'est une œuvre excellente parce que celui que nous prêchons, Christ et Christ crucifié, est excellent. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre message mieux que lui que nous avons à prêcher. Alors, nous devons faire ce travail avec toute la force, l'énergie que Dieu nous donne de le faire. Alors, nous ne devons pas convoiter la place. Il y a beaucoup qui cherchent simplement à être un dirigeant. Ils aiment aller dans une école de théologie pour sortir avec un titre comme pasteur. Mais tel n'est pas le but de notre formation. Le but de notre formation, c'est cette œuvre excellente et de travailler dans le champ de Dieu pour sa gloire, comme Paul décrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 9. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Notez bien, tout appartient à Dieu, que nous soyons l'ouvrier ou bien le champ. Ce n'est pas notre champ. Il y en a qui disputent leur champ, des pasteurs. Si un autre vient dans leur champ, ils se fâchent. Voyez, ils convoitent leur place, ils convoitent leur œuvre. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. L'édifice de Dieu. Il faut qu'on se rappelle toujours que ce travail, si nous le faisons, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas notre travail. Et le fruit appartient à Dieu. Alors, à Dieu la gloire seule, et non pas à nous, aux hommes. Alors, deuxièmement, donc ça commence avec le désir. Mais deuxièmement, dans le verset 2, c'est écrit, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. » Alors, cela ne veut pas dire sans péché. Si tel était le cas, personne ne pouvait prêcher. Mais irréprochable dans le sens que si nous avons commis une faute, ou bien lorsque nous commettons une faute, et évidemment, puisque nous sommes pécheurs, nous allons pécher. Et surtout dans cette œuvre de diriger l'assemblée, puisque nous sommes devant les hommes, ils vont voir nos fautes avant tout, ouais, puisque nous sommes toujours devant eux. Mais d'être irréprochable signifie de reconnaître ses fautes. Nous n'essayons pas de les cacher. Et lorsque nous péchons, ou lorsque nous faisons quelque chose qui est une offense pour une des brebis de Christ, nous devons régler cela immédiatement, demander pardon et nous réconcilier avec ceux à qui nous prêchons afin que rien n'empêche ceux qui nous écoutent de suivre. Je connais des pasteurs qui agissent comme s'ils ne peuvent jamais commettre une faute. Et quoi qu'ils ne reconnaissent pas leurs fautes, mais ceux à qui ils prêchent reconnaissent ces fautes parce qu'ils sont en train de parler entre eux pour se demander comment est-ce qu'ils peuvent aborder le pasteur, le prédicateur, pour lui parler de ses fautes. Mais il y en a qui n'acceptent jamais de critique. Le sens du mot « irréprochable » ici, c'est que nous reconnaissons en toute humilité devant Dieu que nous sommes des pécheurs comme tout autre. Et dans nos prédications, nous sommes en train de prêcher selon notre propre besoin. Quand je prêche, je reconnais que j'ai besoin du message de Christ tant que ceux à qui je prêche. Et quand l'assemblée reconnaît que le prédicateur lui-même est en train de partager avec eux selon ce que le Seigneur lui-même l'a enseigné, ils sont unis. Ils peuvent identifier avec un tel pasteur parce que le pasteur en tant que pécheur est en train de leur parler du remède qui est Christ. Qui est le sang de Christ, c'est toujours le remède pour quiconque, pour le pasteur ou pour le peuple. Alors je crois que c'est dans ce sens-là qu'il est irréprochable. C'est un homme que le Seigneur a rendu honnête dans sa prédication en acceptant qu'il est aussi pécheur que ceux à qui il prêche, qu'ensemble, nous avons besoin de Christ. Alors, telle est l'attitude de quelqu'un que Dieu lui-même a suscité pour diriger l'assemblée. Mais deuxièmement, nous voyons ici, c'est écrit, qui soit le mari d'une seule femme. Alors, il y a beaucoup de discussions concernant l'interprétation de cette phrase. Nous savons qu'il y avait à l'époque des gens qui avaient, des hommes qui avaient des femmes multiples, selon la culture. Mais si quelqu'un est responsable d'une assemblée, il doit être le mari d'une seule femme. Il y en a qui disent que si quelqu'un n'est pas marié, ils interprètent ça de cette manière, alors il ne peut pas diriger, ils doivent être mariés d'abord. Mais si tel était le cas, Paul lui-même ne serait jamais serviteur de Dieu, parce que Paul ne s'est jamais marié. C'est le don que Dieu lui a donné de rester célibataire toute sa vie. Et lui-même, il a reconnu que c'était un don de Dieu, parce que surtout sa mission d'aller partout prêcher, s'il devait en même temps supporter une femme, il n'aurait pas pu voyager de la manière qu'il a fait ou bien endurer l'opposition à cause de l'Évangile s'il avait aussi le souci d'une femme. Alors, nous savons que ça, ce n'est pas le sens. Et il y en a qui interprètent cela en disant que si un homme s'est marié et puis il s'est divorcé, et que tant que cette femme qu'il a divorcée est encore en vie, alors il s'est marié, c'est comme s'il a deux femmes maintenant devant Dieu, donc il ne peut pas prêcher. Beaucoup interprètent cela de cette manière. Mais je ne crois pas que tel est le sens non plus, parce que nous savons que Dieu est un Dieu qui pardonne, et il y en a des hommes qui, dans leur passé, peut-être ont eu des mariages rompus, mais après un certain temps, le Seigneur maintenant les a attirés à Christ en leur apprenant l'Évangile de Christ, et ils se reposent en lui et lui seul, et qui sont remariés et ils sont attachés à cette femme. Je crois que ça, c'est le sens là, que ça soit le mari d'une seule femme, comme Christ n'a qu'une seule épouse qui est son Église, alors que celui qui dirige soit attaché à sa femme de cette manière. Alors, c'est pour garder l'ordre dans l'assemblée, mais je dirais aussi pour protéger le pasteur, puisque dans l'assemblée, il peut avoir beaucoup de tentations, puisqu'il y a des femmes qui fréquentent comme des hommes, mais il ne faut pas que le pasteur soit quelqu'un qui... faut pas que ça soit quelqu'un qui poursuit des femmes dans l'assemblée sous guise d'être leur pasteur. Non, ils ont une seule femme, que le mari soit attaché à sa femme en toutes choses. Alors, ça c'est pour protéger aussi le pasteur par la grâce de Dieu. Et puis, nous voyons troisièmement mentionné ici que ce soit un homme sobre. Alors, le mot sobre là veut dire quelqu'un qui a tous ses aspects de pensée, il est vigilant. Il reconnaît que de diriger une assemblée, il y a beaucoup de dangers. Alors, être sobre, c'est d'être conscient de ces dangers, non seulement pour l'assemblée, mais pour soi-même. Parce que encore, nous sommes des pécheurs. Et l'orgueil prend beaucoup de prédicateurs en piège. Ou quand les gens commencent à venir, ils s'imaginent que c'est pour eux que les gens viennent. Là encore, si les gens viennent, c'est pas pour le serviteur, mais c'est pour le maître de la maison. C'est lui qui les attire. Alors, toute la gloire doit revenir au maître. Donc, qu'il soit sobre, et c'est écrit modéré. Nous pouvons manger et boire comme tout autre, mais que tout soit fait dans la modération. C'est dans ce sens-là. Nous ne devons pas laisser les activités de ce monde nous prendre en piège, parce que nous sommes entièrement dédiés à l'œuvre de Christ et à son peuple. Alors, c'est important que toute notre attention soit à lui. Et puis, cinquièmement, c'est écrit « régler dans sa conduite ». C'est dans le même sens que nous ne pouvons pas être des hommes qui se fâchent facilement. Il faut dire que les gens s'opposent, non seulement à nous, mais à l'Évangile. Alors, nous devons être réglés dans notre conduite, réglés par la parole de Dieu, réglés par l'Esprit, réglés par la grâce de Dieu. Alors, tout cela est nécessaire pour servir Dieu d'une manière digne de sa gloire. Et puis, sixièmement, c'est écrit « hospitalier ». Puisque nous devons diriger des gens de différentes cultures, de différentes manières, différents arrière-plans, alors nous devons être hospitalier. Cela veut dire capable de recevoir des gens tels qu'ils sont. Je sais que il y en a qui sont durs dans leur règlement, dans leur manière. Ils ont certaines règles à suivre qu'ils imposent sur des gens, et ils sont ils veulent se présenter comme des hommes durs et forts en tant que pasteurs. Mais le sens du mot hospitalier, je crois que c'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 15 et le verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. C'est écrit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Combien de fois est-ce que nous avons vu ce mot édifier, l'édification? Et voilà la raison, verset 3, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultent ou t'insultent sont tombés sur moi. Il y aura des insultes, il y aura des oppositions, des hommes au sujet de l'Évangile. Alors, nous devons être des gens hospitaliers, toujours prêts à recevoir quiconque et à démontrer cet amour de Dieu pour des pécheurs, sachant que nous-mêmes, nous étions pécheurs, et que si Christ est mort, c'est à cause de mes outrages, mes offenses, qu'il est mort. Il est mort pour des pécheurs. Alors, plus que tout autre, celui qui est le pasteur ou serviteur de Dieu, dirigeant, doit reconnaître que ce sont des pécheurs que le Seigneur attire à lui, et c'est au pasteur maintenant de les recevoir tels qu'ils sont, puisque cette parole est certaine, Christ est venu dans le monde sauver des pécheurs, comme Paul dit, dont je suis le premier. Et puis, en septième lieu, nous voyons dans le verset 2, c'est écrit « propre à l'enseignement ». Je crois que le sens là n'est pas seulement propre à enseigner les autres, mais propre aussi à recevoir des enseignements lui-même. Comment est-ce que je peux enseigner d'autres si moi-même je ne suis pas un étudiant de cette parole capable de recevoir cet enseignement moi-même? Alors, c'est aussi un don de Dieu de pouvoir donner les enseignements que de recevoir des enseignements. Et je crois que cela est dans ce sens, propre à l'enseignement. Non seulement propre à enseigner, mais propre à être enseigné. Et puis, huitième, dans le verset 3, c'est écrit, « Il faut qu'il ne se soit ni à donner au vin. » Il y en a qui interprètent cela pour dire qu'il ne doit jamais boire le vin. Mais nous savons que dans la culture, surtout au temps de Christ, le vin était souvent la boisson préférée à la table puisque l'eau n'était pas potable. Alors, on servait souvent le vin à la table. C'est comme ça dans beaucoup de cultures. Donc, le péché n'est pas dans le vin. Mais ici, c'est écrit, il faut qu'il ne soit ni à donner au vin. Cela veut dire, en ce qui concerne la boisson, d'être modéré et non pas attaché à sa boisson. Alors, on ne doit pas retrouver le pasteur souvent dans les bars et les bistrots en train de boire et s'enivrer. Non, il doit être modéré en toutes choses. Et puis, neuvièmement, c'est écrit « ni violent ». Évidemment, ce n'est pas seulement dans le sens d'être violent avec ses mains, mais aussi avec la langue. Je remarque quand quelqu'un me dit qu'il est dirigeant, j'observe la manière qu'il traite sa femme, la manière qu'il parle à ses enfants, et même la manière qu'il prêche. Si c'est avec une certaine violence, tel n'est pas le comportement d'un serviteur de Dieu. Il doit être doux dans sa manière, toujours priant le Seigneur qu'à travers sa parole, le Seigneur agisse pour attirer les gens à lui. Dans 2 Timothée chapitre 2 et le verset 24, nous voyons cela expliqué davantage. C'est écrit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Mais le verset clé, c'est le verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires, non pas avec violence, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, nous devons rester calmes face même aux oppositions des hommes et ne pas être violents. Et puis, Dixièmement, c'est écrit, mais indulgent. Indulgent, pacifique et aussi désintéressé. Désintéressé dans le sens n'a pas la convoitise. Et indulgent, pacifique, veut dire qu'on ne doit pas réagir chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais d'être patient. Et dans cela, vivre selon la grâce de Dieu, sachant que c'est Dieu qui ordonne toutes choses. Vous savez que si nous avons cette conviction que tout ce qui se passe, ça vient de la main de Dieu, donc c'est avec patience, alors nous pouvons mener nos vies. Nous ne devons pas être comme des hommes du monde qui n'ont pas cette connaissance de Dieu et que c'est Dieu qui dirige toutes choses, alors ils sont tout le temps en train de réagir. Non, mais nous soumettons à la volonté de Dieu, sachant que tout ce qu'il fait, il fait pour notre bien et pour sa gloire. Alors je vais m'arrêter là. Je sais que nous avons débuté en lisant jusqu'au verset 7, mais vu le temps qui passe, je vais m'arrêter là et ouvrir maintenant le micro pour certains qui peuvent peut-être avoir un commentaire.
Donc, voilà, c'est très bien. C'est-à-dire, je voudrais surtout insister sur le mot aspirer. Parce que, à mon avis, bon, l'aspirer là, c'est-à-dire si vous êtes désiré, si vous êtes vraiment amorcé par cette tâche, alors, ce que nous constatons dans le temps là, il y a beaucoup qui sont aspirés, c'est-à-dire qui désirent faire ce travail là, mais qui n'ont aucune aptitude pour faire ce travail là. Et c'est ce que nous constatons même surtout chez les catholiques, mon frère, les mes frères catholiques. Alors, il y a même d'autres là qui prêchent, qui ont des femmes, deux femmes. Alors, c'est cette condition-là, si vous aspirez, parce qu'on peut aspirer, alors, comme on peut ne pas être aspiré. Maintenant, si on est aspiré, je pense qu'il y a aussi une condition. Il faut, c'est une obligation, il faut qu'il y ait une nécessité, il faut que tu sois irréprochable. Il faut que tu aies des qualités requises. Par exemple, on a parlé, par exemple, de l'hospitalité. Hospitalier. Quelqu'un qui est hospitalier, c'est quelqu'un qui reçoit les gens, quels que soient les problèmes, il reçoit beaucoup de gens chez lui. Alors, beaucoup ne sont pas hospitaliers, du moins. Il y a d'autres là, quand tu vas chez eux, ils ne te reçoivent pas. Or, il faut avoir toutes ces qualités-là. Alors, je pense que, si je veux bien me faire comprendre, il y a un penseur qui a dit ça, c'est pour mieux me faire comprendre, que beaucoup veulent être réellement les disciples de la piété. Et encore aussi, beaucoup veulent pratiquer, beaucoup veulent le faire, et beaucoup peuvent le faire. Souvent, c'est ça. Nous avons le désir de faire quelque chose, mais la nature même, des fois, ne nous permet pas de le faire. Par exemple, quand tu veux être un prêcheur, et que tu es un bec, ou bien tu es un biais, tu ne pourras pas apprécier. Tu es déjà dénué de cette aptitude. Alors c'est ça que je voudrais réellement aussi ajouter. Dans nos temps-là, beaucoup, ils ne sont même pas, c'est-à-dire ils sont dépourvus de leur orgueil, mais qui veulent faire forcément le travail de Dieu. Quand j'ai été au Mali, j'ai vu là-bas des prophètes, des apôtres, et qui prétendent faire beaucoup de choses. Réellement, le siècle a dit quelque chose. Alors, c'est ce que je voudrais vraiment ajouter. Alors, vraiment, moi, j'ai suivi le message du début jusqu'à la fin. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et mes félicitations. Amen.
Amen. Oui, en tout cas, tout est lié. Il ne s'arrête pas simplement à ceux qui aspirent à la charge d'évêque, mais de ces qualités qui sont nécessaires, mais qui seront aussi évidentes si Dieu lui-même les a suscités. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui prêchent que Dieu lui-même n'a jamais envoyé. Il n'a jamais suscité. Et Ils prêchent selon leur propre désir. Alors, c'est pour cela que ces instructions sont données, afin de donner à ceux que le Seigneur lui-même appelle ce sens de diriger et la manière qu'il faut diriger. Il y en a qui ne suivent pas ce modèle et que c'est parce qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ils servent leur propre intérêt, mais non pas celui de Dieu lui-même. Alors, puisqu'il a donné des exemples de différentes dénominations, mais le problème, c'est que ces hommes-là n'ont jamais reçu l'Évangile. Ils ne sont pas régénérés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sa grâce. Alors, ils dirigent les assemblées comme des hommes naturels tels qu'ils sont. Mais ici, dans la Bible, il s'agit des hommes régénérés, spirituels, dans ce sens, en qui Dieu a fait son œuvre. Et vous voyez, c'est ceux-là maintenant, en tant que pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, qu'ils dirigent l'assemblée. D'accord.
En tout cas, moi, je vous ai suivi du début jusqu'à la fin. Voilà.
C'est bien. Par la grâce de Dieu.
Oui, c'était très bon.
Vraiment, j'ai tout compris. Vraiment que c'était bien.
Et puis, pour le frère Amédée, puisque tu nous as joint un peu en retard, ces messages sont sur l'Internet, sur notre site. Et je vais poster ce message, l'enregistrement, tout à l'heure. Alors, ceux qui n'ont pas pu suivre dès le départ, ils peuvent aller sur l'Internet et réécouter.
Parce qu'il faut que tu le mettes rapidement, parce que pour la semaine passée, on n'a pas vu encore.
Oui, j'ai posté ça hier nuit. Donc, j'étais un peu occupé la semaine, mais si tu vas maintenant, tu trouveras ça là pour la semaine passée.
D'accord. Ok, d'accord.
Ouais. Bien.
Ok, d'accord.
On va terminer par la prière, puisque l'assemblée au Malawi m'attend maintenant pour commencer avec eux dans quelques minutes.
D'accord.
Donc, prions. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes de suivre ces enseignements ensemble. Merci pour ces hommes que tu nous as, tu as mis ensemble à travers même cette technologie qui nous permet d'étudier ensemble, même à distance. Et nous savons que tu ordonnes toutes choses, même ceux qui ont pu écouter dès le début et d'autres qui n'ont pas pu jusqu'à la fin. Tout cela, ça nous rappelle que nous ne devons jamais prendre ces occasions à la légère, que c'est selon ta volonté que nous recevons nos instructions. Mais que tu sois avec chacun de nous, surtout ceux qui doivent prêcher dans l'assemblée demain, que tu nous diriges dans nos pensées, nos études, et que, Seigneur, en toutes choses, la gloire te revienne, et que nous soyons conscients,
Amen,
par ton esprit que nous n'avons qu'une seule tâche, c'est de glorifier ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et cette œuvre accomplie pour tes pécheurs à la croix. Alors, merci pour tout ce que tu nous apprends, et nous prions que tu continues à nous apprendre par ta grâce. Et c'est dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur, Rédempteur, Avocat, Jésus-Christ, que nous te prions. Amen.